Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans les studios de RTVFM pour votre émission hebdomadaire de sport, RTV Sport. Et pendant 1h30, nous allons parler de sport. Alors j'espère que le changement d'horaire ne vous a pas trop perturbé. Hein, nous non, hein, parce que tout le monde est là. Valérie est là. Salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Et Alexandre.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Ça va Alexandre?
Ça va, nickel, content qu'il y ait eu changement d'heure.
Comme c'est
ça,
vrai, on revit. Hein.
Comme ça, à 18h, on peut encore se dire bonjour.
Oui, c'est vrai, si il fait veux. Jour.
C'est vrai.
Il fait jour.
Ah oui, il fait jour. Salut Bruno.
Salut.
Ça va?
Ça va, en pleine forme.
Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver tous les trois. Nous allons passer 1h30 ensemble et on va pouvoir parler de plein de choses. Déjà des résultats locaux et nationaux, même si Valérie me disait qu'il n'y en avait pas énormément.
Non,
mais il y en a un minimum.
Il y en a un petit peu. On va parler de basket, de motoball, de foot. Voilà.
Ouais, c'est pas mal.
Et puis de Martin Fourcade aussi.
Aussi, ouais.
Voilà.
Bon, et ensuite on va parler de cyclotourisme avec le cyclo-serrois et bien sûr de l'événement du week-end prochain, la Carpentras Night Fever. Vous la faites, non?
Non, moi je suis pas là.
T'es pas là?
Moi, il y a moyen que je ne sois pas là non plus. non mais en fait.
Tu dégonfles?
Non, c'est juste que je pars en Espagne et je sais avec le lycée et je sais pas, je sais plus exactement le jour où on part.
Bah, ça serait bien de t'intéresser maintenant parce que.
Oui, c'est la fin de la semaine.
Oui.
Ah oui. Bon, mais en tout cas, là, on va pouvoir parler de tous ces sujets, le cyclotourisme et la Carpentras Night Fever, avec Claude Boëry. Bonsoir, Claude.
Bonsoir à tous.
Merci d'avoir répondu présent.
Et merci de m'avoir invité. Surtout.
Eh bien, écoute, c'était avec grand plaisir. Tu es vice-président de l'Office municipal des sports de Carpentras.
Exact, oui.
Et vice-président du cyclo-serrois.
Également.
Voilà, donc tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions.
Oui, presque tout, oui.
Oh. On te fait confiance pour ça. Régis, il t'a délégué en plus la compétence de l'OMS du fait que Régis n'est pas disponible.
Pas disponible.
Oui. Et on le salue. Donc, c'est toi qui vas pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Mais on y reviendra tout à l'heure. On va commencer par les résultats locaux. On commence par quoi?
Je vais commencer avec le basketball, avec l'ABC de Carpentras. Donc, en U11 filles, Carpentras a rencontré Lille-sur-la-Sorgue, 32 à 24. En U13 garçons, Carpentras la recevait Entraigue 25 à 55. En U15 garçons, Carpentras se déplaçait à Pernes et c'est largement, on va dire,
imposé,
oui, voilà. C'est ça, 85 à 54. En U15 filles, Carpentras recevait Château-Renard et Carpentras s'est incliné 50 à 59. En U18 garçons, Carpentras la recevait Rognonias, 64 à 55. Et en U18 filles, Carpentras la recevait Montfavet, 62 pour Carpentras, 24 pour Montfavet. En senior garçon, alors Carpentras s'est déplacé à Marseille et s'est malheureusement incliné 48 à 65. En senior filles, enfin, Carpentras donc se déplaçait à Bouc-Bélair et s'est imposé d'une petite longueur, 55 à 52. Il y avait il y avait aussi du motoball. C'était
La reprise? Non, pas encore.
C'est la Coupe de France. Cadrage, le match retour. Et Carpentras donc recevait Oulgatch en match retour. Et Carpentras s'est imposé 8 à 5.
Alors, juste une parenthèse pour le motoball. Sache qu'on les recevra le 8 avril dans l'émission pour parler justement
de la reprise.
De la reprise, parce qu'ils sont champions de France.
Et il y a un match le 7 avril d'ailleurs.
Et c'est la raison pour laquelle, le 6, parce que c'est le samedi,
oui.
Et c'est la raison pour laquelle on recevra le président.
Oui, qu'on connaît bien.
Christophe Bartolo, le 8 avril. Voilà. Vous savez tout.
Voilà. Je vais parler aussi de football, hein, avec les matchs. Donc, on va commencer par le district Rhône-Durance en D1, car Pernes se déplaçait à Courthézon et malheureusement, c'est incliné 0 à 2. Donc, il y avait Carpentras aussi qui recevait Cavaillon, 3 à 2.
Ouais, Pernes, c'est l'équipe première, c'est ça?
C'est l'équipe 2.
L'équipe 2.
Donc Pernes là donc est au classement général 9e et Carpentras 3e. En D2 donc poule B, Saint-Didier et le match devait rencontrer Graveson a été remis. Excuse-moi. Et c'est l'Étoile d'Aubune Dentelle 1 partout. Monteux recevait le FC Luberon 3 à 1. Au classement général Monteux est 4e. L'Étoile d'Aubune 7e. Saint-Didier, 11e.
Mais avec un match de retard.
Voilà, avec un petit
T'as
match.
T'as vu en suivant, Alexandre?
Ouais, suis bien. Hein.
Ouais. avec un match de retard.
C'est vachement intéressant.
Mais c'est pas les seuls, hein, parce que par exemple, on regarde Visan, on a deux de matchs de retard dans cette poule. Il y a pas mal de matchs de retard. En Détroit, poule A, Monteux recevait Courthézon 3-1. Saint-Didier recevait Camaret, donc 0-2. L'Étoile d'Aubune, Dentelle, 5-1. Et Altin recevait L'Oriole, 4-1. Au classement général, Monteux est 5e, L'Étoile d'Aubune, 8e. L'Oriole, 13e. Et Saint-Didier, 14e et dernier.
C'est catastrophique, Saint-Didier.
Cette année, oui, c'est vrai que c'est pas terrible. Toujours en Détroit, poule B, Carpentras recevait Caron et 1-0 pour Carpentras. Carpentras est 3e au classement général et Caron, 6e. En D4, poule A, nos amis serrois se sont déplacés à Altin et se sont imposés 4-2. Donc, Serre est 9e au classement général quand même. Hein. Très loin quand même des premiers.
Et il y a combien de clubs ?
Combien de clubs ? Toujours 14. C'est des équipes de 14. Enfin, des poules de 14.
Il y avait aussi... t'as vu, Alexandre ? Voilà.
Il y avait aussi la Ligue Méditerranée en Régional 1. Pernes se déplaçait à Istres et s'est malheureusement incliné 1-5. Pernes est 6e au classement général et juste à préciser que Istres était quand même premier au classement général. Il y avait aussi le football féminin avec Monteux. Et malheureusement, donc, elles se sont inclinées face à Nice, 0-1. Au classement général, elles qui étaient premières donc perdent la première place. Elles sont deuxièmes et juste devant, bah, c'est Nice. Voilà, Nice qui a pris... Bon, Nice, on a l'habitude hein, qu'elles soient premières.
Et il y a beaucoup de distance
général.
Entre les deux ? Beaucoup d'écart ?
Non, il y a juste un petit point. Elles étaient premières jusqu'à présent.
Oui, d'accord, mais après, donc, c'est bon.
Voilà.
Et c'est rattrapable.
Voilà, largement, oui. Elles n'ont pas encore fini la saison, hein, on va dire. Et je voulais aussi parler de Fourcade. C'était sa dernière course.
Non, mais c'est son chéri.
Ben oui, non, on voit ça.
Alors, on voit elle parle de Fourcade.
En même temps, ce week-end, voilà.
Mais j'ai pas vu la course, mais je vais la regarder quand même. Je sais qu'il a fini 19e quand même, avec 4 fautes, très loin derrière le premier. Mais bon, c'est pas excessivement.
Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Fourcade ?
Ben, la saison
est terminée. Il est champion olympique, c'est ça ?
Oui, non, mais ça, on le sait.
Non, on se moque, c'est pas
grave. Voilà. Donc, sur l'ensemble de sa saison, hein, Fourcade donc, a remporté 9 épreuves de la Coupe du Monde. Hein. Si on ajoute ces 2 succès aussi au JO, hein, qui à l'inverse des championnats du monde, ne sont pas intégrés au classement final, il porte ce nombre à 11. D'accord ? Il a quand même, sur 21 épreuves, donc il a participé à 21 épreuves sur 22.
Ah.
Il a fait 20 podiums. 20 podiums.
Oui, bien.
Ouais, très bien.
Ah bah, respect.
Ouais.
Hein.
Pas mal.
Ouais, ouais.
C'est pas mal. Donc, pour un petit jeune, c'est pas mal. Hein.
Ouais. 3 titres olympiques, hein, on le sait.
Oui.
Et il a quand même eu 5 globes cette année. 5 globes.
Ouais.
Ouais.
Et c'est quoi les globes ?
Bah, c'est les fameuses. Bah, parce qu'il est champion, il a gagné plusieurs courses. Donc, il les récompense en fin de saison par des globes.
Ah,
donc, tu as le globe de la Mastart, le globe du sprint, enfin tous les trucs comme ça. Quoi. 5 globes.
Et depuis qu'elle suit Martin Fourcade, elle sait tout. De ski de fond, le biathlon, elle a fond.
Ouais. Non, mais il a le globe du sprint, de la poursuite, de la mass start, donc rien que cette semaine déjà. Il aura remporté celui de l'individuel et fait unique aussi, il le partage avec Johannes Bö. C'est Johannes Bö. Bö. Ça se dit comme ça.
C'est donc, qui Johannes Bö ?
Ben, c'est un coureur, c'est un Finlandais. Donc,
il partage deux trucs ensemble.
Ouais. Partage, c'est la meilleure. Donc,
d'accord. Voilà. Bon, mais écoute, on aura appris quelque chose ce soir.
Ouais.
Voilà. Non,
heureusement
mais...
que c'était ton sportif de la semaine.
Bah oui, il y en a d'autres. Oui, on peut dire quand même que c'est de l'année, parce que c'est franchement un sacré champion. Hein.
Ah bah oui.
Là, parce que quand même, les investissements... Enfin, je parle des champions en général, hein, sont quand même des gens qui s'investissent énormément, qui font des sacrifices énormes pour arriver là où ils en sont.
Suivi un peu, Claude T'as suivi, d'une manière générale, les Jeux Olympiques ?
Oui, comme tout le monde, oui. J'ai suivi les Jeux Olympiques
d'hiver.
Ouais. Et derrière, j'ai suivi également les Jeux Olympiques en e-sport.
Paralympiques.
C'est énorme, que ce soit les Jeux Olympiques d'hiver, des gens comme Fourcade qui font des trucs énormes. Et sortis de là, on en parle très peu. Mm-hmm. Sortis des Jeux ou de quelques compétitions, on ne parle jamais de Fourcade. Ceux qui ont fait en plus les Jeux Olympiques en e-sport, on ne me rappelle plus combien de médailles on a obtenu, une vingtaine de médailles.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors que c'est énorme.
C'est énorme, d'autant plus qu'effectivement, ce n'est pas médiatisé du tout. Il y a même un député de La République En Marche, je crois, qui a tapé un coup de gueule justement en disant que les Jeux paralympiques, c'était bien, qu'on avait de très, très grands champions, mais qu'il y avait un gros, gros problème de médiatisation.
Tout à fait.
Et puis, c'est vrai, on le voit. Hein. Quand on voit toutes les médailles qu'il y a pu y avoir, heureusement que ces champions, en tout cas trois d'entre eux, ont été invités au journal de la chaîne 1 pour parler justement de tout ça, parce que sinon, ça passait à côté. Quoi. Alors que franchement, il y a de super champions. Et bien sûr, aux Jeux Olympiques, avec Martin Fourcade et puis tous les autres champions qu'on a pu rencontrer.
Bah, le problème, c'est qu'on n'en parle qu'au moment des Jeux Olympiques. On n'en parle pas le reste de l'année.
Bah oui,
voilà.
C'est un manque de médiatisation parce qu'il n'y a pas d'argent.
Bah oui, mais c'est malheureux parce que bon, quand on voit, que ce soit paralympique ou n'importe quoi, il y a certaines disciplines qui passent complètement à côté. Complètement à côté. Tout ça parce que... Donc, c'est sportif.
C'est une question d'argent.
Voilà. Oui, on est encore dans la question d'argent. Eh bien, justement, ceux qui gagnent, je dis toujours pareil, ceux qui gagnent trop, qu'ils reversent dans une caisse et que l'on donne à tous ces sports qui sont mal connus. C'est tout.
Mais ils gagnent qu'ils ne gagnent pas assez pour pouvoir redonner.
Je pense que l'investissement d'un Fourcade ou d'un skieur est beaucoup plus important qu'un joueur de football. C'est tout.
Voilà. Elle stigmatise les joueurs de football.
Ça dépend, non ?
Mais si, c'est pas les mêmes. C'est des gens qui s'entraînent toute l'année pour parvenir à faire une saison.
Je suis un peu d'accord avec Valérie quand même.
Voilà, ah oui, mais quand tu regardes un footballeur, il va s'entraîner.
Tu parles qu'il va s'entraîner 2-3 heures, allez.
Après, ça dépend dans quel club. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus professionnels que d'autres. Ouais. Tu regardes les grands clubs européens, ils s'entraînent tous les jours et il n'y a pas de.
Enfin, c'est pas le même investissement physique, excuse-moi.
C'est un sport collectif.
Non, voilà. C'est pareil.
C'est pas un même.
Après, on ne peut pas comparer vu que c'est pas le même sport.
Mais oui, mais
c'est pas le même sport.
C'est l'investissement.
Du coup, c'est pas la même préparation. C'est comme tu peux pas comparer de la boxe et du ski, parce que la préparation, elle est pas pareille.
Oui, mais regarde, un boxeur et un skieur, quand même, ils ont un investissement personnel qui est très important.
Un joueur de foot,
excuse-moi, il a pas le même investissement.
Mais bien sûr qu'il a pas le même, vu qu'il y a ses coéquipiers. Mais après, il a quand même un investissement personnel important dans tous les sports collectifs. Oui. Pour que si tu donnes pas un peu de ta personne pour un sport collectif, t'arriveras jamais à rien.
C'est vrai. Il y a plein de sports où on marche très fort en France. Je prends un exemple, le hand.
Oui.
C'est pareil, on en parle qu'aux Jeux Olympiques.
Tout à fait.
On a des résultats fantastiques. Et on aurait les mêmes résultats au foot que le hand ou même des fois le volley
ou le
basket. On en parlerait pendant des heures. Alors là, le hand, on en parle uniquement pendant les grandes compétitions. C'est comme les sports.
Je suis désolé, mais le foot, quand tu regardes les équipes au niveau, qu'on soit en équipe au niveau européen ou mondial, ça va, quoi. Hein. Ils sont surpayés, quoi. On va pas débattre de ça, on est toujours pareil.
Être surpayé, c'est pas pareil.
Toujours,
entre engagement personnel et être surpayé, c'est pas la même chose.
Après, je pense qu'il y a deux débats. Le premier débat, c'est le problème du salaire des joueurs. Ouais. On va pas revenir dans le débat. Après, il y a aussi le problème de la médiatisation. Parce que ça, c'est pas la faute des joueurs.
Ah non.
C'est la faute des médias.
Eh ouais, mais bon.
Et donc, automatiquement, si les médias ne font pas la pub des Jeux paralympiques, s'ils ne font pas la pub du hand, sauf lors des grands événements comme la Coupe du Monde, etc., les JO, on n'en parlera pas. Mmh. Et ce n'est pas la faute des sportifs de ne pas en parler. Après, je pense qu'il y a un gros, gros problème à ce niveau-là. Et
Tout est lié au pognon.
C'est médiatisé, t'es bien payé. Voilà. Mais après, il faut regarder une chose importante. On parle du rugby, le rugby à 15, par exemple. Avant d'être professionnel, l'équipe de France était excellente.
Ouais.
Maintenant, je trouve que le niveau a énormément baissé.
Oui, le rugby en France, c'est encore plus complexe parce qu'on est bête. Hein. Au niveau rugby en France, on est bête. Au lieu de faire une fédération pour tout le monde, ils font 36 millions de fédérations à droite, à gauche et du coup, ça ne marchera pas.
Oui, c'est ça. Ça ne marchera pas.
Il y a aussi le problème dans les clubs, dans l'élite, dans le rugby, c'est que la plupart des joueurs sont des joueurs étrangers. Il y a des postes en France, comme les piliers, par exemple, il n'y a quasiment que des étrangers. Donc, on ne les retrouve pas après en équipe de France.
Mais c'est
on ne retrouve pas l'équivalent.
C'est ce qu'on soulevait il y a deux semaines.
C'est un gros débat qu'on a eu pendant le tournoi des
Il y a ça, et puis même en équipe nationale, et après, on fera la poste, qu'il y a Bruno qui me fait signe, il a totalement raison. Mais c'est vrai que quand on voit les Jeux Olympiques avec... les équipes du Qatar qui se sont trouvées une équipe dans une discipline avec que des étrangers, des joueurs français,
c'était le hand.
Ils
ont été loin quand même.
C'est un final, mais ça pose un problème.
Jusqu'en finale.
Ah bah oui. Oui, mais pour l'argent, les gens vont là où il y a l'argent.
Bien sûr.
Après. D'un côté, c'est logique. Enfin, si on te propose un gros chèque pour avoir un travail tranquille. Pour avoir un truc qui te plaît, bien payé.
Bah disons qu'ils ont des carrières courtes, tous ces gens-là. Hein.
Voilà, après, si t'es confortable, franchement.
Bon, il y a Bruno qui me propose un chèque, là, donc on fait la pause.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans les studios. T'as vu un peu, on fait comme dans les radios nationales.
Oh, c'est timé, hein. Franchement.
Energy Fun Radio, t'as vu, c'est
on devient professionnel. Hein.
Mais on est professionnel.
On est mieux que...
On est mieux que... Voilà. Alors, juste pour rassurer certains auditeurs qui vont passer dans la radio, parce que c'est vrai qu'on a des invités de marque qui viennent régulièrement nous voir. Et je cite bien sûr Vincent Néron, que je salue, qui nous écoute. Et je le rassure, effectivement, le 9 avril, on aura le Motobol, comme je l'ai dit avant.
Le 8 avril, non ?
Ben, c'est le 9, je pense. Faut regarder, tu peux regarder.
Je regarde tout de suite.
Ouais. Et on aura également
le 9 avril. Tu as raison. C'est le 9.
On aura, oui. On aura également Vincent Néron de Malmort du Comtat avec donc Cédic, parce qu'il y a un événement très très important qui va avoir lieu bientôt. C'est la Gogaline, un trail à Malmort du Comtat, la version 2018. Et effectivement, donc on recevra ces deux associations. Donc Vincent, je te rassure, tu es invité le 9 avril. Mais si j'ai parlé tout à l'heure du motoball, c'est parce qu'on parlait du motoball.
Voilà. Un gros bisou, donc, à Vincent.
Ouais. Voilà. Et toi, tu voulais également remercier...
Je voulais remercier Jean-Pierre Talieu, qu'on a reçu la semaine dernière, hein, et qui nous avait parlé de la journée...
Donc, de la marche nordique. Hein.
Voilà, de la marche nordique, hein, qui se déroulait à Sérignan-du-Comtat, donc dimanche dernier, donc hier, hein, qui a été un énorme succès. Donc, il nous a signalé qu'il y avait eu 310 inscriptions au lieu des 85 l'année dernière. Et voilà, ils nous remerciaient, mais nous aussi, on le remercie donc d'être venus. Ça nous a fait toujours, ça nous fait toujours plaisir de recevoir Jean-Pierre. Et puis voilà, c'est tout simplement ça. Ça a été super réussi, une bonne ambiance, du monde sur les quatre parcours qui avaient été dessinés par eux. Donc voilà, super. C'est simplement ça. Je voulais faire un petit coucou à Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, si tu nous écoutes, un gros bisou à toi. Voilà.
Et on est vraiment ravis que ça ait bien marché parce que c'est vraiment une discipline qui mérite d'être beaucoup plus connue.
Il y a plein
de choses à faire.
Voilà.
Je ne sais pas si tu fais un petit peu, Claude, de la randonnée, de la marche nordique. Bon, je sais que tu fais du vélo, forcément.
Moi, c'est le vélo, surtout le vélo. Oui.
Bon, ouais, que le vélo.
Que le vélo. Je joue au foot pendant un petit moment. Et maintenant, vu l'âge, c'est beaucoup plus facile de faire du vélo que d'aller courir en short le soir sur les terrains.
Ouais.
Ouais.
Bon, je pense que tu serais meilleur que certains joueurs, donc... mon petit Alexandre, les résultats nationaux. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu de Ligue 1 parce qu'il y a eu un super match de l'équipe de France.
Calme-toi, il faut parler du RCC avant.
Ah oui, d'abord, on va parler du RCC 13.
Non, mais oui. Je peux dire aussi qu'il y a eu un super match de l'équipe de France de foot.
Bah, super. C'est ironique. Il y a eu un match. Oui, ironiquement, oui.
Oui. Bah, pour l'autre.
Pas... En fait, on a fait une bonne première mi-temps.
Bon, on en parlera alors.
On en parlera après.
Bah oui, on doit parler du RCC 13.
On doit parler du RCC 13, effectivement, qui recevait le. Lyon, c'est ça ? Oui,
Villeurbanne,
exactement.
Très, très important.
Et un match très important, effectivement. Et Carpentras s'est imposé 34 à 26.
Ah, bien.
Donc, bonne opération. Carpentras au classement est donc sixième. Donc,
sixième ? Ils ont rétrogradé, alors ?
Et apparemment, c'est par rapport à leur défaite la semaine dernière ou il y a deux semaines.
Oui, contre... contre Entraigues, ils ont perdu malheureusement.
Avec la défaite contre Entraigues.
Donc là, ils sont à la limite des phases finales.
À la limite des phases finales, mais ils sont à égalité avec les Skur à 31 points. Donc c'est pas non plus... il faut se ressaisir.
Voilà, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, seuls les six premiers rentrent dans le carré des phases finales.
C'est ça. D'abord, les deux premiers sont qualifiés automatiquement. Après, il y a des barrages.
C'est ça.
Et voilà. On va voir.
Non, mais si t'as besoin, Alexandre, sur le rugby, tu peux nous demander, Valérie.
Oui,
bon,
c'est vrai que
on maîtrise.
J'ai du mal un peu.
Oui. Maintenant que t'as arrêté de jouer.
Surtout le rugby à 13.
Bah oui. Il préfère le rugby à 15. Il m'a dit, c'est pour ça qu'il a arrêté. Il n'osait pas le dire aux dirigeants.
Oula, on va se calmer. On va passer au top 14 maintenant, parce qu'il y a eu honnêtement une très très belle journée de top 14 ce week-end. La Rochelle s'est imposée 31 à 20 contre Bordeaux-Bègles. Toulouse se déplaçait au Stade Français et s'est imposé 37 à 33.
Ouh, c'était chaud.
Superbe match et Toulouse s'est imposé et je suis très content. Pau gagne contre Oyonnax 33 à 12. Montpellier gagne 45 à 7 contre Castres. Lyon perd de très peu sur sa pelouse contre le Racing 22 à 24. Et le carton du week-end.
Ah, on t'entend plus.
Non, le meilleur pour la fin.
Le carton de Toulon.
Alors là, franchement.
Il n'y a plus de retour.
C'était le plus beau match du week-end. Effectivement, c'était entre Toulon et Clermont.
Non, parce que je suis supporter de Clermont, mais
avant
le
match. Je pense pas que c'était un beau match.
Avant le match, tout le monde disait que ça allait être un choc incroyable, qu'on va avoir deux équipes qui se battaient. Au final, Toulon a gagné 49 à 0. donc comment dire que
Clermont...
Non,
mais on leur a pas dit que le match avait commencé à Clermont.
Ah non, mais c'est impressionnant. Ils ont pris 7 essais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu sur les 16, sur les 49 points, ils ont marqué que des essais. 7 essais dans le match en tout.
Transformation.
Et Clermont a battu un record. Le record de nombre de plaquages ratés. Ils en ont raté 50. Ils ont raté 50 plaquages, ils ont pris 50 points.
Non, mais c'est,
non, mais là, c'est pas possible, ils ont mis quoi?
Non, c'est catastrophique.
Ils sont venus avec l'équipe réserve.
Ils sont venus avec l'équipe réserve.
Moi qui supporte Clermont-Ferrand, je suis désolé, je peux rien dire.
Il n'y a plus beaucoup de joueurs, ils ont dit aux U15 de venir. Ils sont allés, mais bon.
C'est ce que je pensais.
Du coup, au classement, ça donne que Montpellier est toujours premier, donc là, assez tranquillement, avec 71 points. Deuxième, le Racing avec 66 points. Suivi de très près par Toulouse avec 65 points. Toulon 4e avec 63 points. A noter que les 5e et 6e sont La Rochelle et Pau qui sont à égalité avec 50, Non, avec 61 points, pardon. Et Clermont est 9e avec 45 points. Alors eux, c'est terminé, ça y est. Là,
ah oui, là, c'est
là, on plie le rideau, là, ça y est, c'est fini.
Cette année, oui.
Ils ne méritent rien. Parce
non,
que franchement,
cette année,
la...
c'est une année blanche.
Et par contre, ouais, par contre l'année, là où ça va être intéressant, ça va être pour la course au maintien. Parce que dans les deux dernières équipes, donc la 13e et 14e équipe, ce sont Brive et Oyonnax. Mais à noter qu'il y a quatre équipes qui peuvent être, qui sont susceptibles d'être reléguées. Parce qu'il y a également Agen et le Stade Français qui sont juste devant. Ils ont le Stade Français est 12e avec 33 points. Brive est 13e avec 31 points. Donc
moi, ce qui m'étonne, c'est Brive et le Stade Français. Franchement, oui. Ce ne sont pas des équipes qui sont habituées au top.
Surtout le Stade Français.
Qui sont pas habituées, on va dire, en Pro D2. Là, je suis.
Bah, ouais. Je crois que le Stade Français, ils ne sont jamais allés.
Et Brive, je ne crois pas non plus. Sont...
Mais je sais qu'il y avait.
Si Brive, si.
Mais il y a longtemps.
Si Brive, si, ils étaient remontés il y a quelques années maintenant. Mm. Mais ils ont réussi à s'installer. Ils avaient réussi à s'installer en top 14. Mais là, cette année, c'est terrible, surtout aussi pour le Stade Français qui déjà avait failli se faire reléguer l'année dernière, ou il y a deux ans, je crois, en Pro D2 et qui avait réussi à s'assurer au dernier moment. Et ça semble être la même chose. Et.
Je sais qu'il y avait quelques problèmes au sein de l'équipe,
oui,
au sein du staff et tout ça.
À domicile, ça ne va pas du tout, c'est une catastrophe.
Ouais, ouais.
Ils vont réussir à peut-être s'en sortir sur des matchs à l'extérieur, mais ils perdent tous leurs matchs à domicile. Là, ils ont pris 40 points à domicile. Alors certes, ils ont failli gagner, mais ils ont pris quand même 40 points. Quoi.
Attends, ils n'ont pas failli gagner s'ils ont pris 40 points.
Ils en ont marqué 33.
Oui, d'accord, mais bon, il y a quand même un essai d'écart.
Oui, bien sûr. Mais après, voilà, ils n'étaient pas loin, mais bon.
Et là, il reste combien de journées ?
Alors là, actuellement, on en a 22 journées, donc ça signifie qu'il reste 4, on a 4 journées de la fin avant les phases finales. Donc, je pense que les 6, à part si vraiment Pau tombe et que Lyon fait quelque chose de bien, Lyon peut se qualifier. Ils sont 7e à 4 points de Pau, donc c'est possible. Après, quand on regarde les matchs qui vont suivre aussi la semaine prochaine, un match très important entre le Stade Français et Clermont. Ça va être un match important.
Oui, surtout pour Clermont, j'espère qu'ils vont gagner.
Clermont. Toulouse se déplace à Castres.
À la rigueur, c'est plus important pour le Stade Français
aussi, oui.
Pour maintien. Clermont, parce que,
oui,
Clermont,
maintien, parce
bon,
que Clermont,
on est sûr de maintien.
Clermont, ils ont raté leur saison, ils vont finir au milieu de tableau, se plier, quoi. Mais après, c'est vrai que le Stade Français, en plus, ils reçoivent.
Voilà, ils ont plus.
Ils vont devoir gagner s'ils veulent espérer. Parce que,
Oyonnax aussi, Brive.
Brive reçoit Lyon.
Ah, ça va être dur.
Donc là aussi, ça va être dur parce que Lyon, vraiment, moi, c'est une équipe qui m'a beaucoup, beaucoup étonné cette saison. Mm. Donc on va voir là.
Bon, mais écoute, on va voir la semaine prochaine. On aura l'occasion de reparler parce que la semaine prochaine, on n'aura pas d'émission. Mm. Hein,
c'est le jour férié, lundi de Pâques.
Lundi de Pâques. Mais par contre, on pourra en parler le 9 avril. Alors, on fait une petite pause et puis on parle de l'équipe de France de foot.
Oui.
Allez.
I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? You got a body to hold you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good. You know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends?
ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends?
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, écoutez, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans les studios de RTVFM. On est bien sûr en direct sur le 102.2 et on peut nous réécouter, Alexandre.
Ah, c'est à moi aujourd'hui. Alors, on peut nous réécouter donc de mercredi matin de 6h30 à 8h.
Ouais. Des stress, ça ne me regarde pas comme
non,
ça.
Non, mais de 6h30 à 8h.
Tu ne seras pas viré en tête.
Ensuite, donc le podcast sera dans la journée de mercredi sur le site internet www.rtvfm.net. Et sur la page Facebook RTVFM.
Ah, trop fort.
Ah, il est trop bon.
Ah, est
j'ai
trop
l'habitude
bon.
Maintenant.
Bah, tu commences à voir. Ouais. Et notre invité d'aujourd'hui, comment il s'appelle?
Bah, si tu me caches le nom.
Bon, il s'agit
ça
de...
finit par I.
Oui, bah, oui. Par I. Donc, notre invité d'honneur, hein, qui est à côté de toi depuis
demi-heure. Je sais que c'est le vice-président de l'Office municipal des sports.
Ouais, de Carpentras.
De Carpentras.
Voilà.
Et qui est aussi vice-président du cyclo Serrois.
Ouais.
Voilà.
Je suis trop fort.
Ouais, tout à fait. Il s'agit de Claude Bouhéry. Rebonsoir, Claude.
Rebonsoir. Rebonsoir.
Bon, finalement, il n'est pas recalé.
Il s'en sort pas mal, oui.
Il s'en sort pas mal. Hein. Voilà, donc Claude Bouhéry, effectivement, vice-président de l'OMS de Carpentras. Si je te dis de quelle ville, parce qu'il y a Mazan aussi,
oui.
Une OMS.
C'est vrai.
Et vice-président du cyclo Serrois. Bravo, Alexandre.
Merci.
Bravo. Bravo. Bon, est-ce que tu seras aussi bon pour le foot?
Ah bah, voire même meilleur.
Bah oui. Parce que la France, la Qatar.
Oh là là, Qatar. Enfin...
Alors, il n'y a pas eu de Ligue 1, comme on disait, parce qu'il y a eu le match de l'équipe de France.
Ouais, bah c'est... en vrai, c'était un bon vieux match Ligue 1. Franchement, c'est-à-dire un peu nul. Hein.
Bah, surtout que la Coupe du Monde, c'est bientôt.
Bah, surtout que la Coupe du Monde, c'est bientôt, que les autres équipes ont fait des bons matchs, les autres grandes nations ont fait des bons matchs, et que nous, on jouait contre une équipe comme la Colombie, qui alors, est une très bonne équipe. Attention, ils ont une attaque vraiment très forte. Ils avaient créé un peu la surprise en Coupe du Monde 2014 au Brésil. Mais quand même, quand on regarde l'équipe qu'on a, qui est l'équipe qui vaut la plus chère dans le monde.
Ah bon ?
Oui, on est l'équipe qui ont les joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande d'après les médias sportifs. Donc, on a perdu 3-2 à domicile, sachant qu'on gagnait 2-0 à la mi-temps. Donc, alors, première mi-temps, vraiment, c'était très très bon. J'ai trouvé que l'équipe de France.
C'était 2-1 à la mi-temps.
2-1 à la mi-temps, oui, c'est vrai. On avait pris un but de casquette juste après les deux buts, c'est vrai. Une première mi-temps, moi, que j'avais trouvé. Bon, une première même demi-heure que j'avais trouvé plutôt bonne, avec des bonnes occasions, il y avait du bon jeu, deux buts marqués après 25 minutes, ce qui était très bon. Mais derrière, un relâchement que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu qu'avec l'équipe de France, un tel relâchement, une telle baisse de pression, une baisse de régime incroyable. Et ils se sont fait manger par des Colombiens qui ont été très opportunistes, qui ont été extrêmement chanceux parce que, bon, après, derrière, ils ont vu que certains joueurs français faisaient énormément de fautes, avec une défense aussi qui était en France qui n'était pas du tout bonne, mais vraiment pas du tout. Et derrière, bon, voilà, la France perd. Ça pose des questions parce que le niveau de jeu n'était pas ouf.
Tu as regardé, Claude, le match ?
Alors, j'ai regardé en double parce que j'avais mes cousins d'Italie qui étaient présents et on a regardé Argentine-Italie sur notre chaîne.
Qui est un super match de l'Argentine d'ailleurs. Qui a...
Donc tu n'as pas trop regardé la France ou un petit peu?
J'ai regardé, mais le deuxième but français était un superbe but.
Mais comment tu les as trouvés les Français? Dans le match ou pas trop?
Je les ai trouvés moyens, mais pour mettre un petit bémol à ce qu'il vient de te dire précédemment, on a été pendant longtemps champion du monde des matchs amicaux. Et en compétition officielle, on perdait des matchs. On était, alors que maintenant, bah, peut-être on est un peu plus décontracté, un peu plus en match amicaux. Peut-être on sera un peu plus sérieux et un peu plus concentré en Coupe du Monde.
C'est peut-être justement les prémices d'un futur titre de champion du monde.
Moi, oui, je pense que cette année encore, les équipes de l'Amérique du Sud vont se faire remarquer encore. Hein, parce que
oui, bah, comme chaque
ils sont,
année.
Voilà, elles sont très vives, elles sont, c'est au après, niveau tactique. Elles ont,
parce que la Colombie, on n'en entend pas oui, trop parler quand
oui,
même.
Non, mais oh, je pense que
Colombie,
ça, oui, ça commence.
Un petit peu, mais
la Colombie, depuis,
c'est vrai
très
que par rapport au Brésil.
La Colombie, depuis. Il y a des grands joueurs comme Falcao, qui était un grand attaquant, qui joue à Monaco et qui a joué à l'Atlético Madrid, à Manchester United, enfin bref, dans des grands clubs. On a James Rodriguez, ils ont James Rodriguez qui est un joueur qui a joué à Monaco, puis après qui est parti au Real et qui maintenant joue au Bayern Munich. Donc niveau carrière, ils sont plutôt pas mal. Ils ont gagné beaucoup de joueurs, ont gagné pas mal de titres en Colombie. Maintenant, quand tu compares l'équipe de le jeu en lui-même de la Colombie par rapport à ce qu'on a pu donner dans les autres matchs avant et dans ce qu'on a donné là maintenant en match amicaux, on est vachement trop détendu et on prend pas ça comme des matchs importants. Alors que quand tu regardes les autres équipes, justement, j'ai vu des résumés par exemple de l'Argentine. Ils n'avaient même pas Lionel Messi. Ils ont fait un match incroyable.
Avec d'énormes Di Maria.
Ouais, voilà, Di Maria. Ils mettent des bons joueurs et ça suffit. Et nous, on a une équipe, pour moi, au niveau qui est beaucoup plus forte au niveau général que l'Argentine, par exemple. L'Argentine, au niveau défensif, sont beaucoup moins forts que nous, je trouve, au niveau potentiel. Et on n'arrive pas à jouer correctement.
Bah, c'est un petit peu comme le PSG, hein. C'est-à-dire que le PSG a des joueurs qui sont excessivement bons individuellement,
oui,
mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble.
Mais la différence, c'est que là, en équipe de France, c'est le sélectionneur qui les choisit.
Ah oui.
Et que là, en club, il les achète. Là, il les choisit pour deux matchs, il faut les gagner. Surtout que le match contre la Colombie à domicile, franchement, ça va, les gars. En plus, vous gagnez 2-0 à 25 minutes de jeu. Le match, à la mi-temps, il aurait dû avoir 4-0. À la mi-temps, ils auraient dû leur mettre 3-4-0. Derrière, ils ont eu cette baisse de régime terrible. Et je ne comprends pas, parce que même pour moi, l'un des bons matchs qu'il y a eu à suivre ce week-end, c'était Allemagne-Espagne. Je crois que c'est Allemagne-Espagne.
Très gros match.
Très gros match.
Tu l'as vu, je crois ?
Non, j'ai vu le résultat. Un match de niveau Coupe du Monde.
Il y a eu 1-1, mais voilà, les deux équipes ont donné vraiment le tout pour le tout. Et pourtant, c'était un match amical.
Donc mais la France, c'est pas seulement au foot que la France elle a des problèmes comme ça lors de matchs amicaux, n'importe quoi. Moi, je pense qu'on a certaines. Je pense qu'on paye trop, ou je sais pas. J'en viens à penser ça parce qu'ils sont trop bien, ils ont un certain confort. Et quand c'est les matchs amicaux, on y va tranquille.
Ouais, ils sont payés très bien payés dans tous les pays. Après, ils sont très bien payés en Espagne.
Oui, mais après, c'est
les mentalités
aussi. Donc, les mentalités.
Non, mais moi, je pense que c'est un problème aussi de sélectionneurs, d'entraîneurs. Ou on leur met pas assez la pression.
Ah oui, sélectionneur. Peut-être alors.
Ou sélectionneur, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il faut dire aux joueurs, écoute, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas, et puis c'est tout. Hein.
Surtout que le sélectionneur français, il a le choix. On a vraiment
le choix
à tous les postes.
Je sais que je vais critiquer encore le même, mais Olivier Giroud, moi je veux plus le voir, les gars. C'est bon, Olivier Giroud, alors il a marqué un but contre la Colombie. Tout le monde l'a dit, ouais, il a marqué un but, c'est super, il a encore dépassé un joueur au classement. Je suis désolé, il a marqué un but, il n'y avait pas de gardien. Voilà, le gardien, il a fait une boulette, il a lâché la balle, il était tout seul devant les cages, il a tiré, il a marqué. Félicitations, c'est bien.
Mais il était là,
je l'aurais marqué.
Mais attends,
je demande à un attaquant de marquer des vrais buts et de marquer des buts surtout.
Oui, mais il en a marqué.
Oui, il en a marqué un alors qu'il avait eu je sais pas combien d'occasions et qu'il en a loupé la majorité. Derrière, en plus, c'est un joueur qui est pour moi pas utile dans le système de l'équipe de France. C'est des équipes, il y a que des joueurs rapides. Ils vont nous mettre Giroud. Il est grand et il fait des super têtes. Il est bon en coup franc et tout ça. Mais il est mauvais. Enfin, désolé.
Oui, mais moi, tu veux mettre qui est ?
Mais il y a plein d'autres attaquants. Je suis désolé.
Il y a également beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés.
Mais dans tous les cas, Giroud, il sera mis. C'est ça qui m'énerve. C'est que qui est Fekir, qui est même Benzema. Si Benzema marquait des buts et qu'il aurait marqué 40 buts et qu'il... Voilà, moi ça m'énerve.
Après, il y a Martial encore.
On a beaucoup d'opportunités offensives et on va prendre un mec qui court aussi vite que toi, Lionel. Tu vois.
T'as vu comme il est désagréable un peu ?
Non, mais bon, on le sait.
Un attaquant, quand on regarde un attaquant, il demande d'être rapide. Il ne demande pas de...
Il demande d'être rapide, d'être là au bon moment.
Et surtout d'être régulier dans son match. Giroud, il va marquer un but, mais derrière, moi je préfère un attaquant qui marque pas, mais qui derrière va faire un super match, plutôt qu'un joueur qui va marquer un but au début de match sans gardien et qui derrière va faire un match pourri.
Bon, écoute, on fait un truc. Valérie, toi qui sais tout, tu trouves le numéro de téléphone de Didier Deschamps, on l'appelle en direct, comme ça au moins on règle les problèmes.
Et on lui demande de resélectionner Zidane.
Non, mais attends, Didier Deschamps aussi, est-ce qu'il n'a pas de la pression de la part du dessus pour mettre certains joueurs, c'est tout.
Giroud, oui. Je pense que Giroud, oui.
C'est pas possible parce qu'il n'est quand même pas stupide.
Pour être si mauvais.
Didier Deschamps, c'est un champion du monde quand même. C'est un excellent joueur.
Oui. Champion d'Europe aussi.
Champion d'Europe.
Avec Marseille. Avec
oui. C'est quand même un sacré joueur. Donc, il a la vision. Donc, je me pose des questions.
C'est une stratégie pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas bons. Et le jour de la, comme me disait Claude, le jour de la Coupe du Monde, ils vont devant, surprise, champion du monde.
Ça serait beau, Giroud, non, c'est
avec une étoile de plus.
En 98, on n'avait pas fait une super préparation.
Moi, j'étais pas né, mais je sais que
je connais Mitterrand. Si tu savais ce que t'as raté.
Eh oui, je sais, mais j'ai raté le match. Tu sais que je l'ai revu.
Allez, on fait une petite pause musicale, et puis là, tu vas pas rater.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans les studios après cette petite pause musicale, après ce débat sur l'équipe de France de football. Maintenant, on va parler de cyclotourisme. Est-ce que Valérie, tu as déjà pratiqué le cyclotourisme ?
Non, pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non.
Toi, Bruno, t'as jamais fait du cyclisme ?
Si, j'ai fait du vélo quand j'étais plus jeune, ouais.
Ah, mais pas de...
Pas en club.
Non, pas en club.
Ah oui, comme tout le monde, avec nos bicloons, comme on disait.
Ouais, mais
c'était des mini-vélos.
Mais je partais faire des grandes virées tout seul, mais je partais faire des grandes virées.
C'est-à-dire pendant combien de kilomètres ?
Quand j'habitais en Haute-Savoie, je faisais des 60 kilomètres.
Ah, quand même,
T'étais sportif ?
Ouais, il y a très longtemps.
Et ouais, c'est la face cachée de Bruno.
Ouais, mais j'en ai pas fait pendant très longtemps en fait.
Et toi, Alex, le vélo ?
Bah, ouais, comme tout le monde en loisir. Hein.
Ouais, mais
moi, bah, en sport club, j'ai fait que du rugby.
Ouais,
j'ai commencé tellement tôt le rugby que.
Ça t'a jamais intéressé ?
Bah, en fait, non. J'aimais bien faire du vélo comme ça et encore, j'étais pas hyper fan. Mais
alors, justement, on va poser la question aussi à Claude un petit peu concernant. Parce que là, on parle de cyclotourisme, on parle également de cyclisme. C'est quoi la différence entre les deux ?
En France, il y a deux fédérations, la FFC, la Fédération Française de Cyclisme, qui s'occupe de la partie compétition, et ensuite la Fédération Française de Cyclotourisme, celle où les cyclo-serrois sont affiliés. Mmh. Et là, c'est le vélo balade, le vélo famille. Ce qui ne nous empêche pas de faire des grandes balades, hein, parce que samedi dernier, on a fait une sortie avec le club, on était 21 au départ de Serres, parce qu'on part toujours de Serres, et on est parti, on a fait 110 kilomètres.
J'aime bien quand il dit 21 au départ. Et à l'arrivée, il y en a combien ?
21 à l'arrivée, dont 3 féminines qui ont fait tout le parcours avec nous.
Mais c'est vrai que le cyclotourisme, on dirait qu'il y a une connotation vieux qui font du vélo.
C'est un petit peu le problème de la Fédération française de cyclotourisme aujourd'hui, c'est que la majorité des pratiquants sont plus licenciés, retraités. Après, les jeunes vont plus vers le cyclosportif.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des sortes de compétitions quand même en cyclotourisme.
En cyclotourisme, il n'y avait que des balades. C'est de la balade. Même lorsqu'on organise les Bosses du Comtat et qu'on organise au mois de mai, il n'y a pas de chronométrage.
Ah,
les gens partent, ils font le parcours, quelle que soit la distance, et ils le font à leur rythme et sans limite de temps. C'est ce qui fait la différence par rapport au cyclo-sportif. Oui,
donc les jeunes ont plus tendance à aller vers le cyclisme à cause de la compétition.
La côté compétition. Et après, avec l'âge, les gens reviennent un petit peu vers le cyclotourisme.
Et ensuite, concernant justement le cyclotourisme, quand tu parles de longue distance, etc., en moyenne, vous partez pour faire combien de kilomètres ? Parce que les cyclistes, on les voit, ils partent entre 100 et 200 kilomètres. Vous, c'est à peu près pareil, un peu plus ?
Nous, on fait deux sorties par semaine, une le mercredi après-midi et une le samedi. L'hiver, on part que sur la matinée. On fait entre 70 et 100-110. Après, l'été, on part sur la journée complète, le samedi. On s'arrête faire à midi, on fait un casse-croûte. Et là, on peut partir sur des distances un peu plus longues, 150 km maxi, oui.
Parce que c'est vrai que, comme tu parlais de cyclisme, cyclotourisme un peu plus long, des distances un peu plus longues, etc. C'est vrai que je ne sais pas vous, Valérie, Alexandre, mais moi, j'ai toujours l'image du cyclotouriste avec le vélo et les valises à l'arrière.
Le vélo sacoche, ça s'appelle.
C'est ça.
Ouais. Alors, il y a des gens qui font, dans le cyclotourisme, il y a des gens qui font des diagonales. Bon, il y en a quelques-unes célèbres, Strasbourg-Perpignan, Brest-Menton, des grands trucs comme ça, mais ça, c'est plusieurs jours et c'est en autonomie totale.
Et je crois que ça s'appelle des courses Audax.
Aussi, ouais. Voilà,
Audax, on l'avait déjà rencontré, ce mot qui veut dire audacieux. Ouais. Rappelle-toi.
Ah, mais c'était un randonnée,
c'était
ça.
C'était du latin, oui. Randonnée, Audax. Ouais. Et oui.
Parce que là, en fait, même en cycliste, chez les cyclistes, il y a des brevets Audax en fait, qui permettent de parcourir de longues distances. Je l'ai trouvé sur Internet. C'est-à-dire à partir de 100 km.
100, 200, 300, voilà, 500 km.
En groupe et à une vitesse régulée par des capitaines de route.
Ouais.
Mmh. Mais c'est vrai que, je ne sais pas vous, c'est l'histoire de la sacoche derrière, les bagages derrière, bah, c'est l'image du cyclotouriste. Alors que maintenant, ce n'est plus du tout cette image-là. C'est... Quand on voit les cyclotouristes dans la rue, sur la route, est-ce qu'ils sont différents des cyclistes au niveau visuel ou non ?
On a à peu près la même, non, on a les tenues de vélo. Le vélo, comme tu disais, avec les sacoches, il faut que le vélo soit adapté. Nous, on a des vélos, au club, on a des vélos qui font des vélos de course, qu'on appelait avant les vélos de course, les vélos de compétition, qui ne sont pas adaptés pour partir avec des sacoches. Et bon, après, bon, pour faire les distances que l'on fait, de nos vélos suffit simplement, bien sûr.
Mais à Carpentras, excuse-moi, à Carpentras, je me rappelle avoir vu, d'ailleurs chaque année, des cyclotouristes, effectivement, avec des sacoches. Mais ce sont des gens qui parcourent la France, en fait. Et qui font des haltes à Carpentras. Mais c'est là avec les fameux vélos, avec les sacoches. C'est des gens qui partent pendant deux semaines, trois semaines.
Il y en a qui partent en vacances, en famille, avec les sacoches.
Mais là, c'est carrément un club, parce que c'est, chaque fois, c'est un groupe d'une trentaine ou cinquantaine de personnes qui
ont... Nous, ce qu'on fait, c'est du vélo, c'est de la balade, et on fait aussi de la découverte, parce qu'on part visiter les régions de France sur quatre jours, cinq jours. Là, on part au mois d'avril, on va partir une semaine dans le Var. Après, on va partir en septembre dans les Alpes-Maritimes. Et on part quatre jours et en randonnée. Et là, on fait de la découverte également. C'est qu'on promène en vélo et on découvre des régions.
Bruno, tu voulais poser une question ?
Non, c'est bon, j'ai eu la réponse.
Ah bah, ça tombe bien. Et parce qu'on parlait de longue distance en cyclotouriste. Il n'y a pas des cyclotouristes qui font le parcours du Tour de France ? Il me semblait avoir entendu parler.
Il y a une Tour de France. Oh, oui. Alors, c'est pareil, il y a des gens qui font le Tour de France, mais ils font vraiment le Tour de France. Pas comme le Tour de France qui fait un petit peu.
Voilà, ils font les quatre coins en fait.
Ouais, enfin, les quatre coins du Tour de France. Oh, oui.
Et c'est annuel, tu sais, tu connais un petit peu le principe ou pas ?
Non, mais c'est que on peut le faire en individuel aussi, il suffit de s'inscrire et on s'inscrit et on se fait marquer dans les gendarmeries ou dans des lieux précis pour bien pointer. En marquant bien son passage. Mais il y a un Tour de France de cyclotouriste aussi.
Donc en fait,
c'est fait toujours dans l'esprit balade. À aucun moment, il y a l'esprit de compétition.
Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de cyclotouriste professionnel ?
Non. Non,
voilà.
Non.
C'est que les cyclistes.
Ils partent à 20, ils reviennent à 20. Voilà, en fait, ils s'attendent mutuellement et tout
c'est
ça.
C'est l'idéal quand même, ce combat.
Ben non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on voit que c'est vraiment pas la compétition.
Non,
quoi.
C'est pas de
on cherche pas à être le meilleur que.
Ça n'empêche pas que de temps en temps, dans les montées ou dans machin, on se tire un petit peu la bourre.
Tu prends le Mont Ventoux, tu attends au chalet Reynard les autres.
Voilà, et après, en haut des côtes, on s'attend, on se regroupe et on repart tous ensemble.
Avec le petit canon. Et concernant, on parlait de l'âge, comme quoi ça a une connotation de personnes d'un certain âge, etc. Alors, je ne parle pas au niveau du club, mais au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir pratiquer le cyclotourisme ?
Absolument pas.
Il n'y a pas d'âge minimum.
Il y a des écoles, dans des clubs, il n'y en a pas sur Sierre, mais dans d'autres clubs, il y a des écoles de cyclo, que ce soit véloroute ou VTT. Et là, les gamins commencent à 6-7 ans. Ils sont accompagnés par des moniteurs. Donc, on peut commencer très, très jeune le cyclotourisme, soit sur route, soit en VTT. Parce qu'il y a également du VTT.
Il y a du VTT.
Ouais,
et vous faites partie de la fédération. De quelle fédération ?
Fédération de cyclotourisme.
Ah oui, donc c'est vraiment une fédération à part.
Tout à fait, à part,
et
à part de
c'est
la fédération.
Ce que tu disais, Alexandre, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir la multiplication des fédérations. Ben, ça crée un gros souci de médiatisation.
Ça crée beaucoup de problèmes. Ben, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, notamment au rugby. C'est qu'au rugby à 13, pourquoi le rugby à 13 il n'est pas très connu ? Parce qu'il y a une surmédiatisation sur une des deux fédérations. Et du coup, ça crée un déséquilibre total, en fait. Et c'est pareil pour n'importe quel sport qui compte plusieurs fédérations. Si tu comptes plusieurs fédérations françaises pour un sport qui est à peu près le même ou est le même, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible.
Bah, c'est compliqué.
On touche deux publics différents, hein, que ce soit d'un côté c'est les sportifs, de l'autre côté c'est les touristes.
Après, c'est dommage que justement il y ait deux fédérations parce que ça peut créer beaucoup de déséquilibre en fonction des sports. Quoi.
Et c'est vrai que le cyclotourisme, on peut le pratiquer de manière individuelle sans forcément appartenir à un club.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu peux dire à un auditeur qui nous écoute pour qu'il puisse vraiment vendre un petit peu le club ?
L'avantage, moi je roulais au départ, je roulais tout seul. On fait des petits parcours, on n'ose pas aller trop loin. L'avantage du club, c'est un, ça motive, deux, c'est convivial. Après, l'avantage de la licence, c'est qu'il y a une assurance, ça rassure, on est rassuré. Et ça motive. Moi, j'ai le fait de passer, de rouler en individuel, de passer à de rouler en club, c'était puissance 10. Je roulais tout seul, je faisais une cinquantaine de kilomètres. Voilà, le club, on sort, ben, on fait 100 km, 110, 120, on le fait normalement, quoi, sans se poser des questions. Très bien. C'est sécurisant. On n'est pas seul, on est accompagné, c'est beaucoup plus facile.
Ben, c'est une bonne réponse parce qu'on fait la pause musicale et on parle justement du club, le Cyclo Serrois.
Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. On m'appelle VALD, strap de merde, j'ai allaité. Je crois que je n'ai jamais arrêté. Je coupe la plaquette à l'épée. Plein de filtres, plein d'effets. T'as pas de rime, pas de texte. Pas de string, même pas de fesses. Pas de piste, donc pas de guerre. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Comme si j'étais sorti d'HEC. Sur le détecteur, la chaussette. J'ai les combos, la recette. Promis, je touche pas ta serrette. Je t'aime encore en levrette. Je t'aime encore en secret. Putain, j'ai le cœur sur la main. Je renifle les fleurs du malin. J'sens encore l'odeur du machin. J'esquive l'heure du matin. Je sais très bien ce qui m'a. Attends, même tu penses à moi si t'as le temps. Je la vois qu'une seule fois par an, comme le prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Tim en bas, je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas, les mouvements quasiment noirs. En route pour niquer des mères comme lundi matin, dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Dans la F, dégarer mon buzz, éclater mon buzz, de faire des sondeuses. Comme Péritel, Sullivan rap trop spirituel. Je ne t'effrie plus everyday. Ça me rend l'esprit trop étriqué. Niquez vos mères, je vais me délivrer. Tout cet osé, je l'ai mérité. J'ai disque d'or, j'ai pédigré. T'as que le mort fait périmé. Je peux m'arrêter, mais je continue. Pour le turn-up, je contribue. Abandonne-moi, je reconfigure. Je te laisse la chatte en confiture. Toujours un drame alors qu'on simule. On vit pas sur la même longitude. Marche à la fin pour tes longues études. Si besoin, écho, y'a mon pécule. J'arrive en bas, le trafic en d'armes. Polia coffret, de bulle, méanda. Fume pas la gomme continentale. Rap plus fait moins de 10 ans pas. Sale pluton t'as pris en flag. Rap saturé d'immenses gars. J'mets la lumière sur bilan crade. Prochain album je 600k. J'ai la vue sur Tim en bas. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas. Les poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mères. Comme lundi matin dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc avant de continuer l'émission, je tenais à m'excuser auprès de Bruno parce qu'effectivement, là on a écouté Vald. Voilà, désaccordé. Merci. Et c'était une dédicace pour Alexandre.
Ouais, bah, oui.
Voilà. Et c'est mais vrai qu'Alexandre adore. Il m'avait dit fais-moi plaisir, tu mets toujours des musiques que j'aime pas. Donc,
non,
voilà.
Alors, c'est pas vrai. Je suis arrivé, j'ai vu qu'elle y était, j'étais content.
Bah oui.
J'étais content, non, mais c'est bien. Même la musique qui a su, après, elle est bien.
Voilà,
mais
après, ça sera Aurel.
Après, Bruno, j'écoute pas que ça, tu sais.
Ah, bah, tu me rassures.
Non, mais
ce qui est bien avec le rap, c'est qu'il y a plein de choses qui partent dans tous les sens. Et tu sais quoi, je vais essayer de te trouver des nouveaux morceaux que t'aimeras peut-être bien.
Eh ben allez, pourquoi pas.
Allez, je me lance un défi.
Voilà, mais en tout cas, c'était, moi j'ai bien aimé.
C'est très bien, mais
parce qu'on a tous la mentalité jeune.
Non, mais en plus c'est quelqu'un qui se prend pas la tête dans ses musiques. Enfin, ça,
non,
en général.
Se prend pas la tête. Non, c'est vrai. Ça, c'est sûr.
C'est quelqu'un qui regarde la réalité d'une façon très lointaine. Et du coup, c'est ça qui rend le truc assez. Ouais.
Mais c'est nous qui sommes un peu vieux, donc on a un peu de mal.
Ouais.
Bon, allez. Ben là, on va voir. Ben, vieux, non, parce que.
On n'est pas vieux pour faire du vélo, par contre.
Ben, non, justement, le cyclo-cérois Carpentras, depuis combien de temps il existe?
10 ans.
Et il est tout jeune?
C'est tout jeune. Oui, c'est tout jeune. Dizaine d'années. Oui.
À l'initiative de qui?
Alors, à l'origine, c'était José Lazare qui avait lancé l'idée d'un club. À l'origine, c'était même pas filié à la fédération, c'était comme ça, c'était des copains, c'était 3-4 copains qui roulaient ensemble.
Tu roulais toi à l'époque aussi?
Non, ça fait 7-8 ans que je suis au club, moi. Mmh. Ouais. Et après, ben, ça a vite grandi. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de licenciés, 4 féminines, et on organise une cyclo chaque année, donc les Bosses du Comtat, qui sont en train de devenir la plus grosse cyclo du département, parce qu'il y avait 400 inscrits l'an dernier à cette cyclo, sur 4 parcours, donc un parcours de 115 km autour du Ventoux, on le fait
mais justement,
chaque année.
Alors, si tu le permets, on développera tout à l'heure, parce que c'est vraiment, comme tu le disais, un événement très très important qui amène beaucoup de monde. Mais avant cela, il n'y a pas de club à Carpentras?
Il y a un autre club, oui.
Il y a un autre club, parce que c'est vrai que des fois, il y a, je ne dirais pas qu'il y a une petite guéguerre, mais il y a Serres, il y a Carpentras, et c'est vrai que des fois, bah, voilà, c'est le village et un petit peu la ville. Il y a moins d'adhérents, il y a autant d'adhérents.
Il y a le deuxième club de Carpentras, c'est la SPTT. La SPTT, c'est omnisport, hein, donc il y a une section cycliste, la SPTT. Ils sont un peu plus nombreux que
et vous avez des relations?
Tout à fait. Oui, on se voit régulièrement sur les cyclos, on se rencontre en dehors des cyclos, bien sûr, parce qu'on habite Carpentras, donc on se rencontre régulièrement. Ça se passe en toute amitié, sans aucun problème.
Donc, mais c'est la SPTT?
C'est la SPTT. C'est Carpentras, nous, c'est Serres.
Voilà, c'est ça. Et au niveau, justement, de tout à l'heure, on parlait de l'âge en disant que bah, les enfants... n'était pas friand du cyclotourisme.
J'ai pas dit les enfants, j'ai fait les
ados.
Quoi, les jeunes.
Les jeunes adultes.
Les jeunes adultes, oui.
Voilà. Pas parce que le cyclotourisme ne les veut pas, mais c'est eux qui
c'est
veulent pas
choix,
forcément
non, c'est
le
un choix. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une différence entre la compétition et nous, la promenade, c'est le côté plus familial chez nous. Quoi.
Voilà. Donc, au niveau du club, vous prenez les jeunes à partir de quel âge?
Il n'y a pas de limite d'âge. Bon, actuellement, le licencié le plus jeune chez nous a 28 ans.
C'est jeune quand même.
Ben, c'est jeune, oui. Ben, le plus âgé a 75, 76 ans. Donc,
il y a vraiment une grande
palette d'âge, oui, tout à fait, oui.
Et ça vous est déjà arrivé de voir des plus jeunes encore vouloir participer ou pas forcément? Pas encore.
Non, pas encore. On a eu un licencié une année, venu, il avait 14 ans. Après, c'est l'âge, un peu, on se cherche, on ne sait pas trop. On va aller dans le sport, mais il est resté une saison avec nous. Après, il a changé d'activité. Oui, on a un licencié qui avait 14 ans une année. Oui.
Ah oui.
Oui.
Donc finalement...
C'était le fils de notre médecin, Philippe Forgerot. Son fils qui avait signé une année. Puis après, bon, il a eu d'autres activités. Il n'a plus suivi.
Il n'a plus suivi. Comment vous organisez vos sorties? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure.
Oui, deux sorties par semaine.
C'est deux sorties.
Ouais.
Le mercredi.
Après-midi. Et le samedi, l'hiver, l'après-midi, l'été, sur toute la journée.
Et en distance?
Ça varie. Après, c'est un peu la météo. C'est un peu, l'hiver, il fait nuit plus tôt, donc on rentre plus tôt. C'est 70-80 km les plus petites. Et samedi, on a fait 110. Ça peut être 120, 130, 140 sur une journée. Après.
Alors, comment ça se passe? Imaginons, Valérie veut se mettre au cyclotourisme. Elle débute, elle n'a pas un niveau... elle a un niveau sportif, peut-être en course à pied, pas mauvais parce qu'elle a fait du hand. Par contre, le vélo, ce n'est pas sa spécialité. 80 km pour commencer, ça fait beaucoup. Comment elle fait?
Donc, on ne va pas commencer par lui faire 80 km déjà. Déjà, on va l'accueillir.
Donc, il y a plusieurs groupes.
Oui, on va l'accueillir au club déjà. On va expliquer comment le club fonctionne, comment fonctionne un vélo. Ça, elle n'a pas l'habitude de se servir de son vélo. Donc, ça, on va l'expliquer. On va faire une promenade ou deux avec elle pour voir son niveau. Et puis en fonction, mais oui, on fera un groupe, on va l'accompagner pendant un petit moment. Et tranquillement, après, il faut une dizaine de sorties à peu près pour avoir un bon niveau et essayer d'accompagner le club. Mais ce qu'on fait souvent, c'est lorsqu'on part, le groupe part ensemble. Et puis en fonction des niveaux, certains font des distances plus courtes, coupent et rentrent un peu plus tôt.
Oui.
Là, on s'organise en fonction du départ, en fonction du niveau des gens qui sont là, on organise la sortie en fonction. Oui.
Mais c'est vrai que on avait reçu Betty Kals et elle nous avait dit, donc elle avait tenté de battre le record de montée du Mont Ventoux, hein, ce qu'elle avait fait. Bon, oui. C'était un peu particulier parce qu'elle a battu le record de dénivelé positif, hein, plus de 14 000 mètres ou 12 000. Et elle nous disait qu'elle avait commencé le vélo, donc le cyclisme, hein, mais bon, cyclotouriste, cycliste, c'est à peu près pareil, il y a 5 ans. Et qu'elle nous disait qu'on progresse très très vite.
Oui, il faut rouler. Il faut rouler, c'est un peu comme tous les sports, hein, c'est l'habitude, il faut de l'entraînement. Mais le vélo, c'est oui, il faut faire des kilomètres et après on arrive à acquérir une bonne.
Moi, c'est les montées que je crains.
Dès que oui, après côté, les montées, il y a des descentes derrière généralement.
Oui, bon, enfin.
Parle près du micro, Valérie.
Quand tu as des montées de plusieurs kilomètres, c'est
oui,
un peu.
Oui, mais c'est rare. On peut. Ici, on a l'avantage dans la région d'avoir plusieurs parcours possibles. On peut partir dans la plaine du côté de Cavaillon, on peut faire les Alpilles. De l'autre côté, on fait le Luberon, on peut partir dans le Gard. On a la Drôme, on a les monts du Vaucluse, on a le Mont Ventoux. C'est-à-dire qu'on a tout un panel de parcours possibles. Donc, c'est qu'on peut s'adapter à tous les niveaux, sans problème.
Le Mont Ventoux, vous le montez souvent?
Oui. Bon, deux, trois fois par an, c'est...
C'est mythique, hein.
C'est mythique. On habite au pied du Ventoux, donc on le fait, c'est deux, trois fois par an.
En moyenne, combien de temps vous mettez? Parce que je discutais avec des cyclistes amateurs qui ont quand même pas mal de vélos. Certains le montent en 1h30.
Moi, je mets 2h.
Ah, c'est pas mal déjà 2h. Hein.
C'est bien. Hein.
Ouais. Bah, c'est bien.
Ouais. 1h30, c'est déjà quelqu'un qui roule très très bien.
J'imagine.
Ouais, 1h30, déjà, c'est un très bon niveau.
Oui.
Oui.
Bah, c'est vrai que quand on voit un cycliste, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, en combien de temps tu montes devant tout, ça te permet de voir son niveau.
Ouais.
Parce que après, là aussi, je te posais la question concernant un cycliste amateur sur la distance, mais il y a également la dénivelée. Parce que c'est vrai, comme disait Valérie, quand tu as une forte dénivelée, c'est pas évident de suivre.
Le plus difficile dans le vélo, c'est les montées. Après, dans les montées, c'est pas trop la difficulté de la montée ou du pourcentage du dénivelé. Après, c'est savoir gérer son effort. Et on connaît la distance. Après, il faut pédaler en fonction du dénivelé, bien gérer son effort sur toute la montée. Si on part à bloc en bas,
ça va être dur.
Le sommet va être difficile à atteindre, oui.
Et combien de pignons il a ton vélo? Les vélos en général de vitesse?
Moi, j'ai deux plateaux à l'avant et 11 vitesses, ça fait 11 pignons à l'arrière, ça fait 22 vitesses.
Ah, ouais. Quand même.
Et avec un moteur à injection?
Voilà, un petit moteur dans les pédales.
Pas encore, ça c'est
dans le cadre.
Pas encore, ça, j'attends encore quelques années pour avoir un vélo électrique.
Ah, moi j'ai le vélo électrique.
Ouais, non, mais c'est
très bien. Voilà, ça y est.
Ouais, oui, ouais, je fais la feignasse.
T'es passé de l'autre côté de la barrière.
Ah oui, mais qu'est-ce que c'est agréable.
Les vélocistes aujourd'hui vendent 40% en moyenne et 40% de leurs ventes sont des vélos électriques.
C'est fou.
Et ouais.
Incroyable.
Ah, mais c'est tellement agréable, c'est vrai que.
C'est agréable. Et puis on voit de plus en plus des couples, c'est-à-dire que le monsieur est devant avec son vélo de route et madame derrière avec un vélo électrique qui suit.
Voilà, ça y est. C'est
bon. Nous, on a tous les deux un vélo électrique.
Ouais, allez, on fait une petite pause et on parle juste après de l'événement que je t'ai parlé que tu as voulu parler tout à l'heure. Je t'ai un peu coupé la chic, mais tu vas pouvoir en parler. C'est le 12 mai, hein, c'est les boss du Comtat. Allez, à tout de suite.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. voisine crie très fort. C'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien.
Ніколи не вірить тому, що написано.
Да. Да.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous revoici dans les studios, nous sommes bien sûr en direct et c'est la dernière partie de l'émission. Et durant cette dernière partie, on va parler de l'événement du cyclo serrois, les bosses du Comtat Venaissin, organisé donc par le club. C'est un des plus gros événements du département ?
Au niveau des cyclotouristes, oui, on a eu plus de 400 inscrits l'an dernier.
C'est énorme.
Plus de la moitié ont fait le grand parcours. Donc les gens viennent vraiment sur les bosses du Comtat chercher la difficulté. C'est vraiment quelque chose d'énorme.
Mais justement, pourquoi ils viennent là pour la difficulté, comme tu disais, ou bien par rapport à la variété ? Parce que quand je vois un petit peu le parcours, et c'est un parcours magnifique.
Les quatre parcours sont magnifiques. Il y a du dénivelé. Et le parcours, le 115 km, le Tour du Ventoux, c'est
Tu as 85, 115, 105, 135. Oui, ouais. Tu en as un à 135. Et c'est le Tour du Ventoux, Lioux, Col de Murs, dénivelé 2200 mètres.
Ouais.
Trois ravitaillements, heureusement. Parce que...
ouais.
Et comment ça se passe justement ? C'est-à-dire que on choisit en fonction de quoi ? En fonction de son niveau ? Parce que ce n'est pas une course. Donc il n'y a pas de remise de récompense
ici ? Si, à l'arrivée. Et on récompense le club le plus nombreux. Il y a plusieurs, le premier club le plus nombreux, le deuxième, le troisième.
Ah, c'est pas individuel, c'est par club ?
En individuel, généralement, on récompense le plus âgé, le plus jeune, la personne qui vient le plus loin, le licencié qui vient le plus loin, parce que c'est généralement des gens qui sont en vacances et qui s'inscrivent également. Donc il y a également des récompenses, mais c'est soit au club, soit dans l'individuel. Mais la récompense n'est pas faite sur le temps, c'est juste uniquement sur la participation.
Donc 4 parcours, c'est ça ? Le plus petit, 45 mètres.
45 mètres,
mais sur 45 km, il y a 500 mètres de dénivelé. Voilà.
Donc ça, c'est pour quelqu'un qui veut débuter, découvrir le cyclotourisme.
Oui, ou quelqu'un qui veut justement juste faire une petite promenade tranquille.
Ensuite, le suivant, Claude ?
Après, c'est 85.
Ah oui, donc on double là carrément.
Ouais, les gorges de la Nesque, le mont du Vaucluse, dénivelé 1350 mètres.
Et après 105, les gorges de la Nesque, Lioux, Col du Murs, dénivelé 1600 mètres. Après, ouais, le tour du Ventoux avec 1700 mètres de dénivelé. Oui.
Parle assez fort dans le micro. Combien de dénivelé ? 1700 mètres ?
1700 mètres, oui.
Donc en fait, vous ne montez pas au Ventoux, vous faites le tour ?
On fait le tour, oui, on ne monte pas le Ventoux, nous.
Et par contre, je sais que vous avez également des événements qui sont juste à côté parce que j'étais en train de regarder les inscriptions. Donc, j'avais une question, mais je l'ai perdue. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me rattraper comme je peux.
S'il y a un repas, repas également. L'année dernière, avec les bénévoles, qui on est nombreux, on est une quarantaine de bénévoles pour organiser les bosses. Ça, on a servi 200 repas.
Ah, quand même.
Ah oui.
Ici, à Serre, dans la salle en bas. Là.
Et oui, parce que là, il y a un repas avec parce que c'est après la course.
Après la course, oui.
Donc, ouais. Il faut le réconfort. T'as une entrée, un plat, un fromage, un dessert et un café. Pour combien le prix ?
8 euros.
8 euros. C'est donné. Et ce que je recherchais, j'étais en train de galérer tout à l'heure, mais personne n'est venu me secourir. Surtout pas Alexandre.
Ah bah non.
Hein, c'était moi, qu'il y a un billet de tombola qui est offert à tous les participants. Parce que je le cherchais, mais je ne trouvais pas. Oh parce oui. que ma photocopie
en fin
était
de compte, c'est ce qui fait le succès aussi. C'est des boss. C'est complet. Le repas, ben c'est convivial. L'accueil, les ravitaillements sont très copieux également. Donc c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui fait qu'on a énormément d'inscrits à cet événement.
Oui, en plus, c'est vraiment pas cher. Quoi. La frais d'inscription pour un licencié, 5 euros. Pour un non-licencié, 8 euros.
Et moins de 18 ans, c'est gratuit.
Voilà. Donc, honnêtement...
Pour les licenciés, moins de 18 ans, c'est gratuit. Oui. Ouais, oui.
Et sinon, c'est 3 euros.
3 euros.
Alex, il faudra vite t'inscrire.
Donc, comment ça se passe? Donc, on s'inscrit sur
même.
Internet ou le matin
le
même?
Le matin même, ouais, oui.
D'accord. À partir de...
Partie 7h.
7h jusqu'à 9h.
Et le début des courses?
On s'inscrit, on prend son vélo, on démarre et on fait ça.
Oh, on le fait comme on veut.
Son parcours comme on veut, oui.
Et j'ai vu clôture à 14h, c'est ça?
Les inscriptions clôture à 14h, oui.
Et on part.
Oui, après certains mènent individuels, des clubs qui viennent, une fois que le club est inscrit, le club part ensemble, groupé.
D'accord, bah écoute, on mettra l'affiche, bien sûr, sur la page de la radio, mais c'est vraiment.
Gros événement du club.
Et il y a la fête aussi, non ?
Voilà, et à partir de cette année, c'est tout nouveau. On fait une deuxième cyclo le jour de la fête de Serres. C'est un événement un peu plus petit, ça sera le premier de l'année. C'était pour redynamiser un petit peu la fête de Serres. Mmh. Donc le président se sont rencontrés et on a décidé de faire une cyclo pour la fête de Serres.
Voilà, 40 km, 75 km voilà. Et 95 km.
Et la date
km. 4 août.
Le 4 août.
Voilà, le dimanche 4 août. C'est... Voilà.
D'accord. Bah, c'est bien qu'au moins ça permet comme ça de mettre en avant le cyclotourisme. Alors, on va passer sur un autre événement qui aura lieu samedi prochain.
Oui.
Alors, les conditions météo ne sont pas trop mauvaises parce que l'an dernier, malheureusement, en tout cas, ils n'annoncent pas du trop gros mauvais temps.
Il fera un petit peu frais, mais...
Voilà, parce que l'an dernier, malheureusement, ça a été repoussé d'un mois
oui.
Et ça a été un problème.
C'était un problème. Ouais. Cette année, c'est où la météo est favorable, la course a lieu. La météo n'est pas favorable, bon, voilà, ça sera malheureusement annulé. A priori, c'est bon.
A priori, c'est bon.
Il fera frais, mais c'est,
donc,
c'est faisable.
Il s'agit de la Carpentras Night Fever. Mm-hmm. On en est à quelle...
Sixième édition.
Sixième édition, déjà
non, déjà, oui.
Alors justement, j'ai une question, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs que j'ai rencontrés qui savaient que j'allais te rencontrer là, et qui ont... pas eu des réclamations, mais qui s'interrogent. Ils trouvent que maintenant, cette course, elle est moins conviviale qu'avant. Et l'argument qui est avancé, c'est de dire, avant, on pouvait, parce que c'est une course par équipe, oui. Avant, c'était des équipes de 3 coureurs, oui. Et on est passé à 2 coureurs,
oui.
Et les personnes qui sont déçues disent, ça n'empêche pas qu'ils continuent à faire la course, mais que bah, c'est souvent, avant, quand il y avait 3 coureurs, il y avait peut-être 2 bons et 1 moins bon. Et maintenant, ben, les bons tournent ensemble et c'est toujours les mêmes qui gagnent. Pourquoi vous avez arrêté justement cette organisation de 3?
Parce qu'avec le problème qu'on a rencontré l'an dernier, on avait un petit peu moins d'inscrits. Donc, après, aujourd'hui, il y a également... le centre de ville de Carpentras est tout bloqué, entièrement fermé. Et donc, on a limité à 150 le nombre d'équipes inscrites. Après, aujourd'hui, ben, avec les événements actuels, on rencontre des problèmes de sécurité. Donc, on réduit un petit peu le
nombre. C'est au niveau de la sécurité que ça pose problème.
Ça pose problème, oui. Après, c'est une grosse organisation. On bloque pendant un certain moment tout le centre-ville de Carpentras. Donc, après, si on fait plus de coureurs, ça fait plus de temps et plus de blocage de la ville. Donc, c'est un peu handicapant.
Alors là, cette année, c'est donc la 6e édition. Mmh. Est-ce qu'il y a des nouveautés qu'il n'y avait pas l'an dernier ?
Non, c'est toujours le même tour. C'est la seule nouveauté au jeu cette année, c'est qu'au départ, il y aura un échauffement collectif en musique avec Marie-Pierre Milesi, qui est également...
Ça, c'est une habituée de l'échauffement
voilà.
Collectif.
Voilà.
Alors, je pense que ça va être dynamique et je pense que les coureurs vont partir bien chaud sur le parcours.
Ça, on peut faire confiance à Marie, Pierre.
Oui.
Et donc là,
ça, alors... ça sera sur la place de la mairie, la place Maurice Chartier. Donc,
donc comment ça s'organise la soirée? Le rendez-vous est fixé à quelle heure?
Alors, le rendez-vous est fixé à 19h35 pour l'échauffement. Par contre, à 19h30, c'est le départ de l'Andisport, qui eux ne font qu'une boucle de 3 km.
Voilà, donc avec deux joëlettes. Oui. Et c'est vrai qu'on avait rencontré le nouveau président du club Andisport du Conta.
Oui, et Jacques Hidalgo, c'est ça?
Non.
Non.
J'ai mangé son nom.
Jocelyn.
Et Roland Davo, justement. Et à l'époque, il manquait effectivement. Donc, il y avait deux joëlettes et il manquait une équipe de bénévoles. Et je crois que c'est
complet aujourd'hui.
C'est complet.
Bah, oui.
Donc, les joëlettes vont faire le tour et ensuite, on pourra lancer.
Le départ, c'est 20h, départ de la course.
Départ de la course, 20h. Ouais. Le parcours, la distance?
Alors, la distance, c'est des boucles de 3 km. Donc, chaque équipe fait deux boucles de 3 km.
Deux boucles
de... Ils sont deux participants, ils font 3 km chacun.
Alors, comment ça se passe au niveau de l'inscription? C'est-à-dire que c'est une inscription...
Deux fois 6 km, pardon. 3 km, c'est l'Andisport et les autres, ouais. C'est 6 km. Ouais.
Au niveau de l'inscription, ce n'est pas le jour même, je suppose, c'est un petit peu
on
avant.
On peut s'inscrire le jour même. Sinon, il y a un site sur lequel on peut s'inscrire. C'est www.run-8evasionchrono.com.
De toute façon, on le mettra sur le podcast.
Voilà. Et aussi, il y a l'OMS carpentra@gmail.com aussi, également pour tous les renseignements. Oui.
Et en moyenne, donc, là, c'est figé, 150 équipes, donc 300 coureurs maximum.
Oui, maximum.
Bah, donc, ouais. C'est-à-dire que si on est intéressé, il faut se réveiller maintenant.
Il faut se réveiller maintenant.
On n'est pas sûr le jour même de pouvoir s'inscrire.
Si c'est complet, le jour même, c'est compliqué, oui.
Et donc là, le prix d'inscription, il y a une majoration, non, si on s'inscrit le jour
oui,
même?
Oui, c'est 12 euros le tarif et c'est un peu plus cher, c'est 15 euros le jour de la course.
Bon. Kira, Valérie, non? Ah non, tu m'as dit
non,
que pas
je
là.
Suis absente cette année. Non. Eh bien oui, c'est le lundi de Pâques en plus, je veux dire,
c'est vrai que
là.
Ça tombe un peu mal, hein, c'est un week-end prolongé, je trouve que c'est
ça
dommage.
Tombe sur le week-end de Pâques.
Ah ouais, c'est vrai que ce week-end.
Et oui, donc c'est... Mais
c'est pas la course qui tombe mal, c'est le week-end de Pâques qui tombe mal.
Oui, c'est le week-end de Pâques.
La course a toujours lieu en même temps.
Non, mais on en parlait justement avant et on disait que cette année, Pâques, c'est très 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 tôt. D'habitude, c'est mi-avril, fin avril, mais alors là, début avril, c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que...
Donc
a,
nous
je
mettra...
pense qu'il y a beaucoup de personnes absentes.
Donc nous, on mettra, on va dire, toutes les informations sur le site du podcast, parce que c'est vrai que c'est un moment important. J'ai déjà partagé justement la publicité.
Ouais,
donc, comme tout Carpentra va être fermé, le rendez-vous, il est fixé place d'Ingabert?
Non, place de la mairie.
Place de la mairie.
Place de la mairie. Place Maurice Chartier.
D'accord. Bon, mais très bien.
Le départ et arrivé au même endroit.
Okay, bon
l'échauffement, c'est là, le départ, c'est là, et l'arrivée est là également.
Il y aura un petit verre de l'amitié après.
Tout à fait, à la fin, oui. Avec le départ, avec le passage sous la rue, la vue, l'espace de.
La rue vitrée.
Ouais, on passe sous la rue vitrée au départ, oui.
Voilà.
Et donc, le parcours se fait vraiment dans Carpentras intramuros.
Tout Carpentras intramuros, oui.
Donc, c'est vrai que j'invite vraiment toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément Carpentras, parce que bon, c'est vrai que la radio porte assez loin, hein, même si c'est une radio. Sur le territoire du Comtat Venaissin, ouais. Ça va jusque pas loin d'Avignon même. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir voir. Ça permet de visiter Carpentras, ça permet justement de découvrir des rues comme la rue Vitrée que tu parlais. Hein. Ouais. Elle est située où, au demeurant?
Elle est pas
juste
loin de, voilà,
côté
de
la mairie.
Ah, ils prennent la rue des Halles, non? Le parcours un petit peu...
Oui, ça ressort la rue
voilà,
des
Halles. Voilà, rue des Halles, tout ça. Donc,
ouais. Bon, mais écoute, en tout cas...
Je crois que c'est pareil, c'est une des rares courses de nuit.
En plus,
c'est vrai. Qui reste, oh oui, c'est, voilà. C'est...
Et puis surtout dans Carpentras, ça
Carpentras.
Permet comme ça, voilà, de visiter, de.
Mmh.
Non, mais je trouve que c'est
une.
Et puis.
Non, puis c'est à faire, c'est
il y a une bonne ambiance.
Et oui, on l'a déjà fait nous
en tant que
bénévole. Voilà.
Bah, il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans, quand on a
fait. Ah non, on l'a fait deux
dernière,
fois.
L'année dernière,
ça mobilise 50 bénévoles.
Pas l'année dernière, l'année d'avant.
C'est énorme.
Et vous vous rendez compte, 50 bénévoles monopolisés.
Oui. Ben oui,
plus
nous,
la police
faisait partie.
Plus la police municipale.
On avait parti pendant.
Oui.
Moi, je l'ai fait deux fois en tant que bénévole.
Moi, fait une
Alexandre,
fois.
Tu l'as fait avec moi une
je
fois.
Je l'avais fait une fois, parce que l'année dernière, c'était.
Mais tu l'as fait aussi une fois, toi.
Oui, la première fois. Bon, en tout cas, l'émission se termine. J'aurais bien continué avec vous tous. Hein. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne.
Les bonnes choses ont une fin, comme on dit.
C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Claude Boëry, hein, vice-président de l'OMS et du Cyclo-Cérois, d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci à vous.
On vous attend tous très nombreux, donc samedi à la Carpentras Night Fever, et puis le 12 mai au Boss du Comtat Venaissin. Bien sûr, tous les renseignements sur le podcast, sur la page Facebook de l'émission, de la radio. Merci Bruno, merci beaucoup Valérie, merci Alexandre. Donc je vous dis lundi prochain, pas d'émission. On se revoit le 9 avec la Gogaline, pour, donc c'est un trail, le motoball. Allez, bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Carry more than just my secrets, to carry love.